pendant la louange et l'adoration. C'est pas souvent que ça arrive. Encore, si vous êtes ici pour la première fois ce matin, hein, c'est toute une expérience. Mais d'habitude, je prépare les notes et je vous demande à suivre avec moi ces notes. Sauf que, on va utiliser ces notes, mais probablement la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines après que Jim Caseman a fait son tour. Mais ce matin, j'ai vraiment quelque chose dans mon esprit. Et pendant la louange et l'adoration, c'était vraiment confirmé que c'est ça qu'on a, on a besoin de voir ensemble. Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent que je suive la direction de l'Esprit-Saint ce matin? Donc, c'est la chose dont nous avons besoin. Et je crois que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Cette parole est puissante, efficace, elle peut nous transformer. Et on aime toujours faire une déclaration de la foi à la vie comblée avant de faire le message. Parce qu'on croit que ce livre est inspiré de Dieu. Et on ne veut pas juste venir à l'Église comme par routine et par tradition, mais on veut venir par la foi, en sachant que Dieu est présent, en sachant que Dieu nous parle, en sachant que sa parole nous change. Et la Bible nous enseigne que ce qu'on croit dans notre cœur et qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplit. C'est pourquoi on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va aller dans deux passages ce matin, peut-être trois, mais on va commencer en 1 Pierre, chapitre 5. Si vous pouvez aller à 1 Pierre, et si vous êtes assez rapide, tu peux aussi trouver Marc, chapitre 4, et garder votre doigt en Marc, chapitre 4. Mais on va commencer en 1 Pierre, chapitre 5. C'est les paroles de l'apôtre Pierre qui sont tellement, tellement importantes pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que je sais? C'est que nous, en tant qu'Église, et quand je parle d'Église, je parle de l'Église universelle qui est représentée ici sur la terre. Mais vous savez que l'Église universelle, ça comprend les Églises locales et ça comprend les individus, n'est-ce pas? En fait, Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. N'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, quand Jésus bâtit quelque chose, c'est solide, c'est fort, c'est inébranlable. En fait, on a commencé, la série qu'on a commencé, c'est une foi inébranlable. Et laisse-moi vous dire que quand nous avons une foi inébranlable, on va avoir une église inébranlable. Donc, on sait que Jésus est en train de construire et de bâtir une église qui est solide. Et c'est-à-dire que les églises locales doivent être solides et inébranlables. Et c'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, il faut que vous soyez enracinés, fondés, inébranlables au nom de Jésus. Et on sait qu'on n'a pas juste Dieu qui travaille pour nous, mais on a quand même un adversaire qui travaille contre nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Que depuis des siècles, on a un adversaire qui même avant que le monde soit fondé, Dieu savait que ça serait le cas, mais Satan, qui est vraiment l'adversaire de Dieu, et étant donné qu'il est l'adversaire de Dieu et notre adversaire aussi, lui, il ne va pas juste s'asseoir, croiser les bras et dire, « Bon, Jésus bâtit son église, je vais le laisser faire. » En fait, la Bible nous enseigne que le diable, Satan, il est fâché. Il a une grande colère et il veut faire tout ce qu'il peut pour empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Amen? C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il est là pour mettre les bâtons dans la roue pour empêcher. Mais la bonne nouvelle, qu'est-ce que Jésus a dit, c'est que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre l'Église. C'est-à-dire, comme mon arrière-grand-père a dit vers la fin de sa vie, j'ai lu la fin du livre et nous gagnons. Amen. Tout le monde dit, j'ai lu la fin du livre et nous gagnons. Amen. En fait, la victoire est déjà assurée. La victoire est déjà gagnée au nom de Jésus. Mais ici, en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 dit ceci. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. C'est que nous avons un Dieu qui est pour nous, mais nous avons un adversaire qui est contre nous, et notre adversaire, il se déguise. Il se déguise en fait sous plusieurs formes, mais il se déguise souvent sous forme d'ange de lumière, et il ne va pas juste cogner la porte en disant « Salut, je suis le diable, je suis là pour te faire mal. » Hein? Et la Bible dit qu'on n'ignore pas ses desseins. Les mêmes choses qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin il y a 6000 ans, c'est les mêmes genres de choses, les mêmes tactiques qu'il va utiliser avec nous. Donc, on sait comment il agit. On sait qu'est-ce qu'il fait. Mais la Bible dit, soyez sages, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Hein? Il n'est pas un lion parce que c'est Jésus qui est le lion de Juda, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est le puissant, c'est Jésus qui est le vainqueur. En fait, nous sommes les plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs parce qu'on n'a même pas besoin de défaite ou de vaincre l'ennemi. Jésus l'a fait pour nous. Et nous pouvons jouir de sa victoire. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, mais la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de bruit. Mais si on regarde comme il faut, il n'a pas de dents. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix, a arraché tous les dents du diable. Donc, il ne peut plus nous mordre. Il peut juste nous faire peur. La seule chose que le diable peut faire vraiment pour nuire à notre vie chrétienne, c'est de nous faire peur. Il va rougir. Là, je vais apprendre le français un jour. Peut-être. Mais comme je dis, hein, je sais que le français, c'est la langue céleste. On va parler le français au ciel, je suis convaincu parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Mais j'aime la langue française. Amen. Mais là, il rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire, il va vouloir nous faire peur. Ah, tu vas mourir d'une maladie. Ah, tu vas pas être capable de payer les factures. Ah, personne t'aime. Ah, tout le monde te juge. Ah, tu vas toujours lier à telle chose. Ah, tu vas toujours accrocher à une telle affaire. Il essaie de nous faire peur. Mais c'est pourquoi il faut veiller, il faut être sobre. Il faut savoir que oui, on a un adversaire. Mais comment est-ce qu'on va vaincre notre adversaire? Hein? C'est avec la parole de Dieu. Nous avons un adversaire, le diable, mais nous avons une épée. L'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu. On a les armes puissantes, mais si nos armes sont rangées en dessous de notre lit, ça ne nous aide pas non plus. Hein? Si on garde notre épée dans le placard, dans l'armoire, dans le garde-robe, ça aide pas. Il faut la sortir, il faut savoir utiliser les armes de l'esprit. Il faut savoir utiliser la parole de Dieu. Il faut savoir comment faire face à l'ennemi. Comment est-ce que Jésus a résisté le diable? En fait, c'est ça, parce qu'il dit, verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » On parle d'avoir une foi inébranlable. Pour résister au diable, il faut avoir une foi ferme. Il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Qu'on n'a rien à craindre, que l'ennemi ne peut rien faire contre moi parce que je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que j'ai. Je sais qu'est-ce que je peux faire. Je connais ces choses parce que je connais la parole. J'ai serré la parole dans mon cœur. Quand l'ennemi est venu devant Jésus, dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté Jésus dans trois domaines, n'est-ce pas? Et c'est les mêmes trois domaines où Satan, ou le serpent, a tenté Adam et Ève, ou Ève plus spécifiquement, dans le jardin. Et ces choses, on voit, c'est, on peut dire, c'est, il a tenté Adam, Ève avec les choses de ce monde. Il a tenté Jésus avec les choses de ce monde. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Car si vous avez un amour pour le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. C'est quoi l'amour du monde? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est trois choses. C'est ça que Satan a fait avec Ève dans le jardin. Regarde ce fruit, c'est beau à voir, n'est-ce pas? Ça va être délicieuse à manger, convoitise de la chair, convoitise des yeux. Et en plus, Dieu sait que la journée même que tu manges de ce fruit, que tes yeux vont être ouverts et que tu vas être aussi sage que Dieu. L'orgueil de la vie. Trois domaines. Quand Jésus était face à face avec Satan, notre adversaire, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce que Jésus a subi comme tentation? Si tu as faim, change cette pierre en pain et mange. Hein? C'est quoi l'autre chose? Hein? Si tu as faim, change cette pierre. Et il a dit aussi, si tu peux, tu peux sauter de ce pinacle du temple et tout le monde va voir et que tu vas survivre, etc. Deuxième tentation. Et puis il a dit, regardez tous les royaumes de la terre. Si tu peux tout simplement te prosterner et m'adorer, je vais te donner tous ces royaumes. Encore, convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Intéressant, n'est-ce pas? On n'ignore pas les desseins de l'ennemi. On sait comment il fonctionne. Mais comment est-ce que Jésus a pu résister? Il a résisté toujours avec la parole, n'est-ce pas? Il a toujours dit, il est écrit. Tout le monde dit, il est écrit. Une chance qu'il connaissait la parole, n'est-ce pas? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Donc, laisse-moi vous dire que si nous allons vaincre notre adversaire, il est déjà vaincu, mais si on va réussir à lui résister avec une foi ferme, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, on a besoin d'avoir ces paroles cachées dans notre cœur. Comment est-ce qu'un jeune homme peut garder sa voix pure? C'est avec la parole. C'est avec la parole qu'on fait la guerre, on pourrait dire. C'est avec la parole qu'on résiste. C'est avec la parole qu'on vainc. C'est avec la parole qu'on est capable de vivre dans la victoire. Et si vous n'avez pas la parole, vous êtes faite. Ça, c'est votre épée. Imaginez un soldat qui va aller au combat contre les armées qui sont bien armées, mais lui n'a pas d'épée. C'est dangereux. Et il y a combien de chrétiens qui vont à tous les jours de la vie essayer de faire face à la vie sans avoir la parole dans leur cœur. Dangereux, n'est-ce pas? C'est pourquoi on va aller aujourd'hui à Marc chapitre 4 et on va voir quelque chose que Jésus nous a enseigné, les principes qui vont nous aider à marcher dans la victoire, à porter du fruit pour Dieu, à résister le diable avec une foi ferme et en général, faire la volonté de Dieu et avoir du succès. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment faire cela? Il y a 25% de vous voulez avoir du succès. Et l'autre 75%, qu'est-ce que vous voulez? Vous faire manger par un lion sans dents ou quoi? Ça serait pas mal dégueulasse, hein? Marc chapitre 4, verset 1. On va lire une parabole que nous avons entendue. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez entendu cette parabole. Mais laisse-moi vous dire, on veut l'entendre aujourd'hui comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois. En chapitre 4, verset 1 de Marc, Jésus se met de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie, et tu peux souligner cette phrase, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Tout le monde dit bonne terre. Elle donna, ça c'est le nom de la ville où mes parents habitent, bonne terre, au Missouri. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tous passent en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et en apercevant et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Mais verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Donc, Jésus vient de donner la parabole à la foule. Là, quand il est en particulier avec ses 12 disciples, il dit, vous ne comprenez pas, hein? Je vois que vous n'avez pas compris. Mais regardez, qu'est-ce que Jésus a dit? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Et ce que cela me montre, c'est que si on ne comprend pas la parabole du semeur, on ne peut pas comprendre les autres paraboles. Les principes qui se trouvent dans la parabole qu'on vient de lire sont les principes de base. Ce sont les principes indispensables. Ce sont les principes qui, en fait, sont la clé qui vont ouvrir la porte de la révélation de toutes les autres paraboles. Amen? Donc, est-ce que vous êtes d'accord que c'est important de comprendre ces choses? Vous ne devriez pas juste les comprendre, mais vous devriez les vivre. Et si on est capable de vivre les principes du semeur du parabole, on est capable de gagner et de vaincre dans la vie. Donc, si vous avez eu des luttes, si vous avez eu des moments où il vous semble que vous ne remportez pas la victoire, les choses ne vont pas bien, vous avez de la difficulté à saisir la victoire qui vous appartient en Jésus-Christ, ça se peut très, c'est très fort possible que vous n'avez pas encore saisi les principes du parabole du semeur. Ces principes qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Même si ça ne vous intéresse pas, on va le faire quand même. Verset 17. Mais, oh non, pas 17, pardon. Verset 14. Le semeur sème la parole. Donc déjà là, on peut arrêter, on voit. Pour comprendre cette parabole, il faut comprendre d'abord que la semence, c'est la parole, et la parole, c'est la semence. La chose qui est semée, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit qui est semé. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin. Donc, en fait, vois-tu le langage, les uns. Donc, il dit qu'il va décrire quatre genres de personnes et où on va voir plus tard vraiment quatre genres ou quatre catégories de cœur. La terre représente le cœur. La semence représente la parole. Donc là, on va semer. Le but, c'est de semer la parole dans le cœur pour que le cœur puisse porter du fruit. C'est ça qu'on veut. Donc, mais les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt, souligne le mot aussitôt. Aussitôt. Un principe qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez avoir de la misère dans votre vie chrétienne. Amen? Aussitôt. Ça veut dire tout de suite, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aussitôt, c'est qui vient? Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, je veux que vous compreniez, à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, que ce soit par la lecture, que ce soit par une prédication, peu importe comment la parole ou la semence arrive dans votre vie, il faut que vous sachiez que l'ennemi aussitôt que la parole est semée, Satan va venir pour faire une chose, c'est de voler la parole. N'est-ce pas vrai? Donc, il faut qu'on comprenne que c'est normal que quand on entend un message, quand on entend une prédication, quand on lit un passage de la parole de Dieu, que c'est normal que l'ennemi vienne tout de suite après pour voler la parole. Comment est-ce qu'il va le voler? Il va essayer d'amener des circonstances dans votre vie qui vont contredire la parole que vous avez reçue. Il va essayer d'amener d'autres personnes qui vont contredire qu'est-ce que vous avez entendu, n'est-ce pas? Hein? Il va essayer de semer les pensées, les doutes. Il va vous mentir, car on sait que l'ennemi, il est menteur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vérité en lui. Donc, à chaque fois que vous recevez la parole qui est la vérité, il va venir avec un mensonge ou quelque chose pour contredire. La dernière chose que Dieu, que le diable veut, c'est que Dieu soit démontré comme étant fidèle. Il a toujours voulu, même dans le jardin avec Ève, qu'est-ce que la stratégie de Satan? Dieu a dit, la parole, la semence a été donnée à Adam et Ève. Vous pouvez manger de tous les arbres dans le jardin, sauf il y a un arbre. Il y a juste un arbre au centre du jardin. Il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher ce fruit-là. Défendu. Et puis, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Les doutes. Et qu'est-ce qu'il a attaqué? Satan a attaqué la parole de Dieu. Et Satan attaque toujours la parole. Il va toujours pour l'épée. C'est normal, n'est-ce pas? Imaginez une armée qui vient de recevoir les fusils. Chaque soldat reçoit son fusil. Hein, ça serait vraiment de fun pour l'ennemi de pouvoir trouver un moyen dans la nuit d'aller voler tous les fusils, n'est-ce pas? La nuit avant le combat. Hein, la trompette sonne, tout le monde a besoin d'aller au combat. Là, on parle dans le temps. On n'utilise pas gros les trompettes aujourd'hui, hein? Tout le monde se lève, ils cherchent leurs armes. Pas d'armes. Donc, c'est ça la stratégie de Satan. Il va toujours aller enlever l'épée, enlever le fusil, enlever la parole. Amen? Donc, c'est quoi la clé? Gardez votre marque-page ici en Marc chapitre 4 et regardons Matthieu 13 parce qu'on voit une autre version de cette parabole de semeur et on va voir une clé ici. Matthieu chapitre 13. Verset 14. Oh, non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Juste un instant. Je vais trouver la bonne place. Oui, verset 19. Jésus a dit en verset 18, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. » Tout le monde dit « ne la comprend pas. » Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, on voit que la clé ici, la raison pour laquelle l'ennemi est capable de vous enlever la parole, c'est seulement parce que vous n'avez pas compris la parole. Une personne qui entend quelque chose sans comprendre la chose est capable de perdre la chose. C'est-à-dire que dès que la parole vient dans votre cœur et vous comprenez la parole, vous avez saisi la parole, là, l'ennemi ne peut plus l'enlever. Amen? Et c'est pourquoi on ne parle pas d'une compréhension qui est naturelle ou intellectuelle, mais on parle d'une compréhension spirituelle. On parle, comme Paul a dit, qu'il faut prier pour avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On a besoin d'une révélation de la signification de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a entendu la parole concernant l'assurance de son salut, qu'une fois que vous avez reçu Jésus comme sauveur, comme Seigneur, que le Seigneur ne va jamais vous abandonner, il ne va jamais vous quitter. Une personne qui a compris cela, l'ennemi peut venir autant des fois qu'il veut pour dire, mais toi, tu n'es pas vraiment sauvé. Mais une fois qu'une personne a compris, non, je sais que je sais que je sais que je sais que je suis sauvé, j'ai la parole qui me prouve cela. Bien-aimés, je vous écris ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas afin que vous espériez. Moi, j'ai compris que Jésus a pris ma place. J'ai compris que Jésus est allé à la croix pour moi. J'ai compris que j'ai le salut par son sang au nom de Jésus. Amen. Et l'ennemi, laisse-moi vous dire, il peut essayer d'envoyer une personne par jour, 10 personnes par jour pour essayer de me convaincre que je ne suis pas sauvé. Ça ne donne rien. C'est pourquoi il n'essaie même pas de faire cela. Mais vous savez, il y a une personne qui peut être tellement convaincue, je suis sauvé de mes péchés. Mais quand on lit les paroles, par exemple, que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Hein? Qu'ils appellent les anciens de l'Église. Qui est loin de lui, il est pris pour lui. Et la prière qui est offerte en foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Une personne qui entend cela, et qui lit, par exemple, Psaume 103, qui dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Iniquités. Ah, j'ai compris cela. Beaucoup de chrétiens ont compris cela. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. J'ai compris. Le diable ne peut pas enlever cela. Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Je n'ai pas compris cela. Mais là, tu n'as pas compris. Donc, c'est normal que même si tu entends cela, ça peut être volé. C'est là où on a besoin de demander, Seigneur, c'est toi qui as inspiré la parole. Le Saint-Esprit, en fait, Jésus a dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, n'est-ce pas? On a besoin de demander, Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité, enseigne-moi la parole. Je m'en souviens, quand j'avais 17 ans, nouvellement baptisé du Saint-Esprit, et j'ai sorti ma Bible de son étagère. Hein? J'ai enlevé la poussière, parce que j'étais chrétien depuis déjà 7 ans à l'époque. Mais j'étais un chrétien yo-yo, avec des hauts, les bas, parce que j'avais lu ma Bible peut-être 2 fois dans 7 ans. J'allais à l'église à presque toutes les semaines, avec ma mère. Mais là, ma vie était transformée. J'ai sorti la Bible. Et pendant des mois et des mois de temps, le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse dans ma vie. À chaque jour, je revenais de l'école à 3h30, 3h de l'après-midi. Et pendant des mois, j'allais dans ma chambre et je lisais la parole. Et c'est comme l'Esprit Saint était là avec moi. Et il m'enseignait la parole de Dieu. Et pour des semaines et semaines, souvent, j'arrêtais juste pour aller souper, et puis je restais jusqu'à 2h le matin des fois. Et le Seigneur enseignait la parole à mon cœur. C'est parce que j'avais faim, j'avais soif, et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'enseigner. Vous savez, il n'est fait exception de personne. Vous n'avez pas besoin de rester debout jusqu'à minuit, 2h. Mais 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes par jour même, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Montre-moi, aide-moi à comprendre la semence. Comme ça, quand l'ennemi vient pour voler la semence, il ne va pas pouvoir le faire. Amen? Marc chapitre 4. On ne veut pas être le long du chemin. Ici, en verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. On a tous vu ces gens-là, n'est-ce pas? On a tous été ces gens-là. Le pasteur prêche, comme ce matin, et je dis que Jésus a vaincu l'ennemi pour vous. C'est moins joyeux, n'est-ce pas? Merveilleux. Mais, ça c'est dimanche matin. Vous êtes entourés par des chrétiens. Le pasteur est devant vous en train de vous prêcher un bon message. Mais qu'est-ce que vous allez faire lundi matin quand le cadran sonne? Et tu es fatigué, ça ne te tente pas d'aller au travail. Mais tu vas au travail quand même. Et puis les choses dans la journée ne vont pas forcément bien. Ce n'est pas vraiment la vie à votre goût. il y a des défis, des épreuves de la vie. Cette parole que vous avez entendue dimanche matin, où, on annonce que Jésus a vaincu l'ennemi pour vous, que vous êtes plus que vainqueur, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et vous dites, wouhou! Il faut que cette même joie reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis on continue, on va à un autre niveau dimanche. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Regardons. Dans cette parabole, Jésus nous donne les explications. Ils reçoivent d'abord avec joie, pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent, ils n'ont pas de racines. C'est-à-dire que c'est à la surface, c'est superficiel cette joie qu'ils ont. Ils vont sauter, ils vont dire, « Ouh, je suis plus que vainqueur, ça va bien, j'aime Dieu, j'aime la parole. » Mais quand ça va mal, quand il y a des épreuves, quand c'est difficile, en fait, comment est-ce que Jésus l'a dit? Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. À cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et laisse-moi vous dire, il faut qu'on comprenne ces choses. On a besoin, pour faire face à l'ennemi dans cette vie aujourd'hui, il faut être capable de recevoir la parole, la semence. Et il faut savoir que mon ennemi va essayer de voler la parole, mais non, il ne peut pas parce que le Saint-Esprit m'a enseigné et je comprends la parole de Dieu. Mais il ne faut pas être étonné non plus que quand vous sortez de l'église et je fais un message sur comment avoir un mariage réussi, comment vivre en harmonie avec votre conjoint, comment vous pardonner, se pardonner réciproquement, etc. Soyez pas étonnés que la journée même que vous avez les attaques contre votre mariage. Hein? Quand vous lisez les choses concernant l'amour, que ce soit à propos de l'obéissance dans les finances, la fidélité dans la dîme, une chose de même, soyez pas étonnés qu'il arrive une épreuve. C'est pas Dieu qui envoie l'épreuve. C'est les persécutions et les tribulations qui viennent à cause de la parole. Vous dites, OK, bon, je vais régler le problème, je ne vais plus écouter la parole. J'ai déjà eu des personnes qui ont dit, moi, je ne veux pas prier, je ne veux pas m'approcher de Dieu parce que je sais que si je m'approche de Dieu, le diable va venir contre moi. Et laisse-moi vous dire ça, c'est la pure folie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que gardez le status quo, faites rien pour le Seigneur, le diable, il vous a déjà eu. Vous êtes déjà proie à lui, vous êtes déjà emprisonné, vous faites rien, il est très content, il peut s'occuper d'autres personnes, n'est-ce pas? Mais moi, j'aimerais mieux être une personne qui peut attirer l'attention du diable des fois. Hein? Parce que j'ai pas peur de lui, parce que j'ai gagné, n'est-ce pas? C'est biblique, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de sept fils de Séva dans les Actes des Apôtres? Ils ont essayé de chasser un démon d'un homme, des démons, et les démons ont répondu. Parce qu'ils ont dit, au nom de Jésus de Nazareth que Paul prêche, sors de lui. Et le diable, les démons ont répondu, Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons, mais qui êtes-vous? Et les démons sont sortis de cette personne, ils ont déchiré les vêtements même de la personne, et laisse-moi vous dire, ce n'était pas une jolie histoire. Mais là, est-ce que vous voyez, le diable connaissait Paul? Bonne question à vous poser ce matin. Est-ce que les démons connaissent votre nom? Vous direz, je ne veux pas. Si vous ne voulez pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris. Moi, je veux... Essayons de garder l'équilibre ici. Je ne suis pas le genre de personne qui prêche trop sur le diable. Parce que moi, je ne veux pas donner trop de gloire à lui. Moi, je vais magnifier Dieu. Je vais mettre l'accent sur Dieu. Et souvent, des personnes vont aller dans l'extrême et c'est toujours le diable ceci, le diable cela. Et ce n'est pas le diable, c'est juste la chair. Ils vont chasser un esprit de gâteau de chocolat. Non, ça, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon. Qui veut que tu manges le gâteau. C'est ta chair qui veut manger le gâteau, n'est-ce pas? Et même des fois, quand tu dis des bêtises, et tu parles bête à ton épouse ou à ton mari, là, je pense que c'est pas le diable forcément qui a mis ces paroles dans ta bouche. C'est juste ta chair. Et tu as besoin de maîtriser la chair. Mais des fois, on a aussi un ennemi à résister, n'est-ce pas? Et il faut comprendre ces choses. Donc, on ne veut pas être un cœur qui est comme le long du chemin où le diable va venir voler la parole, mais on ne veut pas manquer de profondeur non plus. On ne veut pas être un chrétien superficiel. On veut être un chrétien qui a des racines. Et c'est quoi la clé? Il dit qu'il manque de persistance. Donc, la clé pour ne pas être un cœur pierreux, c'est d'être persévérant, constant, patient. C'est-à-dire que quand le dimanche matin arrive et j'ai tous mes frères et mes sœurs autour de moi, je peux déclarer « Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ ». Mais lundi matin, quand je suis entouré par des païens, par des non-croyants, je peux dire « Je suis plus que vainqueur ». Amen. Quand tout va bien et toutes les circonstances de la vie sont merveilleuses et vous voyez la manifestation des bénédictions, vous êtes en bonne santé, vous pouvez dire « Merci Seigneur que par les mœurs précieuses de Jésus, j'ai été guéri ». Mais si il y a des symptômes qui essaient d'attaquer ton corps, si des fois vous avez des moments où vous êtes mis à l'épreuve, pas par Dieu, mais les persécutions, les tribulations qui viennent à cause de la parole, et vous pouvez dire la même chose que vous diriez dimanche matin. Soyez constant. C'est par la foi et la persévérance, la constance qu'on hérite des promesses de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc, demande au Seigneur de vous révéler sa parole. Vous allez comprendre la parole. L'ennemi ne va pas pouvoir voler la parole. Soyez constant et persévérant, sachant que c'est un fruit de l'Esprit et vous allez avoir des racines profondes. D'autres reçoivent, verset 18, la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc là, on voit, troisième type du cœur, c'est un cœur qui reçoit la parole, mais la parole est étouffée parce qu'il y a trop d'autres choses dans le cœur. Les affections du cœur ne sont pas forcément... Les affections du cœur sont divisées. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, n'est-ce pas? » Si on tombe en amour avec les choses de ce monde, et des fois c'est très subtil les soucis de ce siècle, n'est-ce pas? Combien de fois on est tellement occupé? Nous avons un style de vie en Amérique du Nord qui est vite, qui est rapide, qui est micro-ondé, n'est-ce pas? Service au volant, micro-ondes, messager instantané, e-mail, on se plaint aujourd'hui. Si on veut envoyer un e-mail et on voit le petit, comment ça, hourglass, la petite chose ou la montre qui dit, ben, attendez, patientez, c'est comme, hey, c'est lent, il va falloir changer d'ordinateur parce que là, ça a pris 5 secondes avant que mon message soit envoyé. Bon, imaginez, hein, les journées de l'apôtre Paul. Dans son temps, lui, hein, envoyer une lettre. Moi, je peux envoyer un message en Asie, en Afrique, n'importe où dans le monde, et presque instantanément, le message est rendu. Hein, vous savez, si j'avais... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un sans fil ici? Un cellulaire, pardon? Un cellulaire? Est-ce que je peux voir votre cellulaire? Vous savez, aujourd'hui, je pourrais, je ne vais pas le faire, je pourrais composer 0-1-1-3-3-4. On appelle la France, n'est-ce pas? 93-53-19-73. Et là, je viens d'appeler mon ami John Madden en France. Vous savez? Et juste peser sur les boutons, et comme ça, je peux être en communication. Je ne suis même pas branché nulle part. Je peux être en communication avec quelqu'un à l'autre côté de l'Atlantique. Instantanément. Mais je dis ça parce que aujourd'hui on est tellement habitué à rapide, rapide, vite, vite, et que ça peut même être trop. Surtout ceux qui travaillent avec les ordinateurs, vous recevez combien d'emails? Là, des fois, je vérifie ma boîte à lettres avec les emails et la semaine passée ou la semaine avant, j'avais de la difficulté avec l'ordinateur, j'ai manqué 2 jours, je pense. ou juste une journée ou deux, je ne pouvais pas accéder à mes choses. Et j'avais comme, quoi, 60 ou 70 messages dans deux jours. C'est comme... Et beaucoup de ces choses, c'était juste des choses qu'on n'a pas besoin. Mais laisse-moi vous dire, on peut devenir tellement étouffé juste par les soucis de ce siècle. On a trop d'informations qui veulent rentrer, n'est-ce pas? Et on a besoin de sélectionner qu'est-ce qu'on va laisser passer, qu'est-ce qu'on ne va pas laisser passer. N'ayez pas peur de faire delete, hein? Comment est-ce qu'on dit? Delete, 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 delete. On envoie tout à la poubelle. C'est juste les choses que je sais. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, je vais prendre le temps pour ça. Mais combien de fois on peut être étouffé par les soucis de ce siècle ou d'autres convoitises? C'est là où on a besoin de revenir à notre premier amour, n'est-ce pas? Donc, trois genres de terre qu'on a vues à date. Le long du chemin, ceux qui n'ont pas compris la parole est volée. Le cœur pierreux, ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais manquent de persistance. Ici, on voit le troisième cœur, c'est le cœur avec des épines. C'est-à-dire qu'il reçoit la parole, mais il a laissé entrer d'autres soucis, d'autres convoitises. Si nous désirons quelque chose plus que nous désirons Dieu, et plus que nous désirons sa parole, voici une chose que je ne vais pas prendre la fin de dire, mais est-ce que vous donnez plus de temps à la télévision que vous donnez à la parole? Est-ce que vous donnez plus de temps à la lecture d'autres choses que vous donnez à la lecture de la parole de Dieu? Parce que ça, si c'est le cas, ça se peut que ça va devenir les épines qui, ça va étouffer la parole dans votre vie. Amen? Juste des choses à examiner, parce qu'on veut porter du fruit. En fait, verset 20. D'autres, tout le monde dit ça, c'est moi. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils m'ont dit, je suis de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Donc là, on voit que ces personnes-là, ils ont compris la parole. Ils sont persistants, persévérants et ils ne laissent pas entrer les distractions dans leur vie. Ces personnes-là, c'est de la bonne terre. La parole est en eux, ils portent du fruit. Quand le diable vient, quand le diable qui rôde comme un lion rugissant vient devant eux pour les menacer, pour rugir, pour les faire peur, ils peuvent sortir de l'épée en disant, « Non, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. » Amen? Il y a trop de chrétiens qui amènent l'épée de l'esprit à l'église le dimanche matin. Mais ils vont classer l'épée lundi au samedi. N'est-ce pas? Et là, laissez-moi vous dire, c'est pas souvent que l'ennemi va vous attaquer à cause de la parole ici, pendant la louange. Il n'aime pas la louange d'abord. Amen? Il n'aime pas. Il va essayer des fois de causer des frictions, des problèmes, des divisions. Laissez-moi vous dire, on n'ignore pas ces décès. Il va essayer de causer la division dans les églises, c'est sûr. Mais là, vous allez avoir le plus de troubles avec l'ennemi, c'est pas ici, pendant la louange, mais c'est rendu à la maison, c'est au travail, c'est quand vous êtes avec les autres gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus. Donc, votre épée, c'est pas pour la décoration le dimanche matin. Et des fois, hein, des fois, il y a certains regroupements des hommes. Mon grand-père était parmi eux. Il sortait avec son gros chapeau, avec son épée à tous les vendredis soirs, plusieurs fois par semaine. Et il était vraiment quelque chose, hein? Mais son épée, c'était pour la décoration, pour Dieu. Je fais partie de tel groupe. Tu comprends? Et il y a des chrétiens qui sont un peu comme ça. Hein? Ils ont dit, voici ma Bible. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je possède. Mais là, ça c'est bien beau de faire ça dimanche matin. C'est important. Mais qu'est-ce que tu fais avec la parole lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi aussi? Hein? Parce que c'est là où l'ennemi va se présenter. Vous laissez mon épée à la maison. Parce que c'est pas le livre. Vous pouvez laisser le livre à la maison, mais l'épée est dans votre cœur. Et l'épée doit faire quoi? Jésus, quand il revient, il va t'assis sur un cheval. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il y a une épée qui sort de sa bouche. Donc, si vous voulez faire face à l'ennemi, c'est pas assez. Hein? Des symptômes dans ton corps, tu ne vas pas faire comme ça. Tu es un bobo. Hein? Quelqu'un vient avec des mensonges, tu ne vas pas faire comme ça. Hein? Il y a des personnes qui pensent de même. Hein? Ça, c'est très religieux, n'est-ce pas? Ils pensent que le livre a des pouvoirs. Ce livre-là est déchiré, laisse-moi vous dire. Mais la parole est établie pour l'éternité dans les cieux. C'est comme j'ai entendu une fois pendant la guerre de sécession aux États-Unis, il y avait un homme qui a mis son Nouveau Testament dans sa poche ici pour couvrir son cœur, pour se protéger. Mais ils ont trouvé ce gars mort sur le champ de bataille avec le Nouveau Testament percé par une balle. Et un de ses camarades avait des cartes de jeu dans sa poche et la balle fut arrêtée par la carte. Donc les gens disent, mais tu vois, la Bible n'a pas servi à grand-chose. Ouais. Papier, encre, un peu de cuir ou plastique, ça ne sert pas à grand-chose contre le diable. Mais la parole éternelle serrée dans un cœur et qui sort d'une bouche, elle est puissante. Elle fait l'affaire. Résistez-lui avec une foi ferme. Laisse-moi vous dire, on ne peut pas courir contre l'ennemi ou contre nos géants avec la bouche fermée. Quand David est allé contre Goliath, il a dit des choses. N'est-ce pas? Lisez cela en Samuel. Il a déclaré sa victoire. Il a dit. Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas pensé. Il a dit, il est écrit. Le diable ne peut pas lire vos pensées. Savez-vous que le diable ne peut pas lire vos pensées? Il n'est pas Dieu. En fait, il est très, très. Sa puissance est minuscule comparée à Dieu. En fait, la Bible dit que quand tout va être terminé et Satan va être lié, prêt à être mis dans l'abîme, que toutes les nations vont être là et tout le monde va voir et tout le monde va dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qui a séduit les nations? On s'est laissé intimider par lui? Ça, c'est la réaction du monde par rapport au diable. On sait qui il est. Lui, c'est un perdant qui a déjà perdu. Je suis un plus que vainqueur qui a déjà gagné. Mais il faut que je le dise. Il faut que je le croie, il faut que je le dise. Parabole du semeur, il faut que je comprenne la parole. Il faut que je sois persistant en qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je dis. Il ne faut pas que je laisse entrer les distractions dans mon cœur. Là, je vais porter du fruit. 30, 60 et 100 au centuple. Amen. On va se lever debout. On va terminer là. Gardez les notes que je vous ai données. On va faire ça une autre fois. Mais je crois de tout mon cœur que qu'est-ce qu'on a fait ce matin, c'est ce que le Seigneur voulait qu'on fasse. Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement fidèle, tu es tellement puissant. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Avec tous les yeux fermés, on va prier ce matin. J'aimerais juste savoir si par chance, avec tous les yeux fermés, il y a quelqu'un ici qui dirait, mais moi, j'ai entendu ce message. J'ai entendu parler de Jésus ce matin, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir reçu Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu sans connaître Jésus. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans son Fils Jésus. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il est ton maître, ton Seigneur, Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, moi j'ai besoin de faire cela. J'ai besoin de savoir sans aucun doute que mes péchés sont vraiment pardonnés, que ma vie est vraiment en Jésus-Christ et que j'ai reçu Jésus comme sauveur et maître de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui lèverait la main en disant, oui, prie pour moi parce que je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre une décision ce matin de suivre Jésus et de donner sa vie à Jésus? Juste, on va prendre une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une personne qui a levé la main. Je ne sais pas si tu as déjà reçu Jésus dans le passé, mais c'est une vraie dédication. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ce matin, on va tous prier ensemble. Et sache que si tu es sincère et si tu crois qu'est-ce que tu dis, que le Seigneur Jésus, si tu n'as pas été né de nouveau avant, maintenant même, le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur et faire de toi une nouvelle création. Si toi, tu as déjà reçu le Seigneur, mais tu t'es éloigné de lui, ça va t'entendre de déclarer, de confesser l'assurance que tu as de ton salut. Donc, on va tous prier ensemble. Donc, répétez cette prière avec foi, avec sincérité. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit éternellement. Je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Je suis une nouvelle création. Mes péchés sont pardonnés. Je suis blanc comme la neige, comme si j'ai jamais péché. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que tous les anges des cieux se réjouissent si un pécheur se répand. On devrait remercier le Seigneur pour cet homme qui a prié cette prière ce matin. Amen. Merci, Père Céleste. Amen. J'aimerais parler avec toi après, monsieur. Je vais parler.